Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est tout juste 22h, vous êtes sur Europe 1.
Aujourd'hui, sa famille, ses amis le pleurent et toute la police nationale avec eux. Comme vous tous, face au pire, il donnait le meilleur.
Il donnait le meilleur et en a payé le prix ultime. Beaucoup d'émotions cet après-midi lors de l'hommage national rendu au brigadier Éric Masson. Il est impératif de donner des moyens à nos forces de l'ordre et de les protéger. Jean Castex ce soir sur France 2. Le Premier ministre veut durcir les sanctions contre les agresseurs de policiers et gendarmes. Peine doublée, retrait du permis et même confiscation du véhicule pour les refus d'obtempérer. 30 ans de réclusion criminelle requis contre Nordal Lelandais, jugé pour la mort du caporal noyé. Les jurés sont en train de délibéré, verdict imminent. Une chasse à l'homme en cours dans les Cévennes pour retrouver l'auteur d'un double homicide dans une scierie du Gard. Un différent professionnel serait à l'origine du drame. Dans ce journal également, la vaccination ouverte dès demain aux moins de 50 ans en fonction des créneaux disponibles. Certains vaccinodromes acceptent déjà tout le monde, sans rendez-vous. La photo d'une femme voilée candidate en marche au départemental crée des remous au sein de la majorité. Et puis en foot, un Français pourrait porter le maillot de l'Espagne pour l'Euro. La météo, deux départements sont ce soir en vigilance orange crue, le Gard et les Bouches-du-Rhône. Demain, le temps sera plus calme dans la matinée, mais une nouvelle perturbation va arriver par la façade ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en net recul, moins 1,86% à 6267 points. Tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Les voitures neuves vont coûter plus cher. Renault va devoir augmenter ses tarifs en raison de la hausse du prix des matières premières. Pour en parler, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil ont reçu Jean-Dominique Sénard, le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Moins de deux semaines après l'hommage national à Stéphanie Monfermé, la République a une nouvelle fois salué la mémoire et l'engagement d'un policier tué dans l'exercice de ses fonctions. Le brigadier Éric Masson, abattu mercredi dernier lors d'un contrôle de trafic de stupéfiants à Avignon. Cité des Papes où cet hommage a été rendu cet après-midi. Cérémonie sobre et poignante en présence du chef du gouvernement et plusieurs de ses ministres. Éric Masson était un homme bien, un policier exemplaire, à saluer Jean Castex, des mots qui ont touché Bruno Bartosetti, délégué Sud Unité SGP Police.
Beaucoup, beaucoup d'émotions. Il a dû s'adresser à nous et il a su vraiment s'adresser aussi à Eric. Il a appelé par son prénom, ce qui signifie bien sûr qu'il avait un regard sur le professionnel, sur le fonctionnaire de police, mais aussi sur l'homme, Eric, qui était un homme remarquable. L'émotion était très forte parce que le Premier ministre, avec beaucoup de précision, a su rendre hommage au policier exemplaire qui était Eric, mais aussi il a su souligner qu'il était un homme exceptionnel. C'était important qu'il puisse s'exprimer sur les deux thèmes, je vais dire, qui sont réunis autour d'Eric. Donc tous ces mots ne sont pas que des mots, c'est ce qui ressort dans le commissariat d'Avignon. Tous ses collègues et amis parlent de la même façon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la place était à l'hommage et ça a été très très bien rendu.
Bruno Bartosetti, délégué Sud, unité SGP Police, au micro de Stéphane Frangy à Avignon pour Europe 1. Du côté de l'enquête, le tireur présumé a été ce soir mis en examen, notamment pour homicide volontaire, et il a été écroué. Il continue de nier les faits, bien qu'il ait été formellement identifié par un collègue du policier tué présumé au moment du meurtre. Une affaire qui a une nouvelle fois mis en lumière la violence que subissent nos forces de l'ordre, de plus en plus prises pour cible. Je vous en parlais hier soir dans ce journal. Jean Castex souhaite durcir les peines pour les agresseurs de policiers et gendarmes. Le Premier ministre a précisé ce soir ses annonces sur le plateau de France 2, notamment au sujet des refus d'obtempérer.
Aujourd'hui, le refus d'obtempérer est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende. Nous allons doubler. Mais surtout, faire encore plus efficace, on va dire que le permis de conduire sera automatiquement suspendu. Et comme parmi les gens qui refusent d'obtempérer, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas de permis, qui conduisent sans permis, nous allons confisquer le véhicule. Je peux vous dire que cette mesure, cette disposition, elle est extrêmement concrète, à la fois pour assurer la protection des forces de sécurité qui procèdent à ces contrôles et pour donner une suite opérationnelle et visible aux sanctions que ces infractions méritent.
Le Premier ministre Jean Castex, invité ce soir du 20h de France 2. Nordal-Lelandais a-t-il tué volontairement le caporal noyé ou s'agissait-il d'un accident comme il le prétend ? C'est la question qu'est en train de trancher les jurés. Le procès touche à sa fin et le verdict pourrait être connu d'une minute à l'autre. Marion Dubreuil, vous êtes aux assises de Savoie à Chambéry où cet après-midi, Nordal-Lelandais a une nouvelle fois présenté ses excuses à la famille d'Arthur Noyé.
Oui, pour la dernière fois, Nordal-Lelandais a répété qu'il n'avait jamais voulu la mort d'Arthur Noyer. Jamais, jamais. Son avocat a cherché à démonter point par point l'accusation qui retient l'intention de tuer. Exit le mobile sexuel. Nordal-Lelandais avait deux partenaires à l'époque, une femme, un homme, disponible à toute heure du jour et de la nuit. Les coups de poing mortels, quand on veut tuer, on ne frappe pas au visage, affirme Maître Jakubowicz. La dissimulation du corps. L'accusé a juste cherché à s'en débarrasser. Quant à l'extrême vulnérabilité du caporal Noyé. On parle d'un militaire de 23 ans, dans la force de l'âge. Il n'est peut-être pas bagarreur, mais il sait se défendre. Alain Jakubowicz a admis les incohérences, les mensonges de son client, mais ça n'en fait pas un meurtrier ni un monstre, a asséné l'avocat qui s'est exprimé devant les médias pour la première fois.
Quel que soit le verdict qui sera rendu, je veux rendre grâce à notre justice, à cette justice qui sait prendre le temps d'analyser les choses, d'analyser les âmes parfois, rendre hommage aux magistrats professionnels, aux jurés auxquels nous, avocats, sommes tant attachés.
L'enjeu pour les jurés, vous l'avez compris, ce n'est pas de dire si Nordal-Lelandais a tué Arthur Noyer ou non, mais s'il l'a fait volontairement. L'enjeu, c'est la peine encourue du simple double entre 15 ans et 30 ans de prison.
Merci Marion Dubreuil à Chambéry pour Europe 1. Venons-en maintenant à cette chasse à l'homme en cours dans les Cévennes. Un individu a pris la fuite en forêt après avoir tué deux personnes dans une scierie. Ça s'est passé ce matin dans le village des Plantiers, dans le Gard, village depuis calfeutré. Les habitants ont interdiction de sortir chez eux. L'homme a abattu le patron et un employé de cette scierie où il était employé. Et son profil est inquiétant, Romain Oquet.
Oui, l'homme est un collectionneur d'armes à feu, un tireur sportif inscrit dans un club. À 29 ans, il est déjà connu de la justice pour avoir porté plainte contre l'ancien maire de sa commune où il travaillait. L'année dernière, le trentenaire est embauché dans cette scierie cévenole et selon le procureur de la République d'Alès, François Schneider, un différent professionnel serait à l'origine du drame.
C'est une personnalité très particulière, très procédurière et qui visiblement avait beaucoup de mal à admettre certains faits qu'il avait dénoncés. Il était également en conflit avec son employeur dans la société pour des problèmes d'horaire de travail. Il avait un comportement depuis quelques temps assez inquiétant, de type paranoïaque.
Alors après la fusillade, l'homme armé a pris la fuite dans la forêt qui borde le village. La traque mobilise ce soir encore 200 gendarmes, dont le GIGN et plusieurs hélicoptères. Car le terrain à quadriller est immense, au cœur d'un parc naturel, détaille Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie.
Il s'agit quand même d'une zone qui est boisée, escarpée. Évidemment, ce sont des conditions qui sont plus difficiles en ce qui nous concerne. Ce sont aussi des conditions qui peuvent permettre à quelqu'un de se dissimuler. Nous nous préparons à une intervention qui peut durer, qui peut s'étendre jusqu'en début de soirée, dans la nuit, etc. Et on prépare les relèves.
En attendant, les 260 habitants doivent rester cloîtrés chez eux, car la difficulté, c'est que les gendarmes ignorent le calibre des armes que l'homme possède avec lui. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il a eu le temps de repasser chez lui pour prendre d'autres munitions.
Merci Romain Oquet.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
C'est le nerf de la guerre contre le Covid, la campagne de vaccination. Elle se porte bien. Plus de 657 000 doses ont été injectées aujourd'hui. C'est un nouveau record. Depuis ce matin, toutes les personnes majeures et sans condition peuvent s'inscrire pour recevoir une injection le lendemain en fonction des disponibilités. Et d'après Doctolib, cela représente environ 20 000 créneaux quotidiens. Ce n'est pas énorme. Alors pour accélérer le rythme et surtout répondre à la demande très forte des moins de 50 ans, certains centres ouvrent des créneaux à tous les majeurs sans réservation. Opération porte ouverte comme à la salle de concert Gaillon Expo à Douai, un vaccinodrome géant où aujourd'hui les jeunes étaient majoritaires, Maximilien Carlier.
Oui, tout à fait. Depuis le début de l'après-midi, 7 personnes sur 10 qui entrent pour une première injection sans rendez-vous, ont la trentaine. Maya, casquette vissée sur la tête, en jogging, elle est ravie.
C'est un des plus beaux jours de ma vie, hein. J'attendais ça avec impatience. Surtout Gaillon, la dernière fois que je suis venue, c'était pour un concert, là c'est pour autre chose, mais je suis autant contente.
Car cette jeune femme se dit qu'avec la vaccination, elle va enfin pouvoir revoir ses amis, sa famille, sans risque, et profiter surtout.
On a envie de retrouver une vie à sortir, aller au resto, aller en boîte. Bon, les boîtes, c'est pas pour tout de suite, mais On a envie de se retrouver, même en groupe, faire des soirées.
À quelques mètres de là, Théophile, 26 ans, tend son bras à l'infirmière.
C'est fait, première dose.
Il a changé d'avis sur le vaccin.
Il y a encore quelques mois, vous m'auriez posé la question, je pense que ça aurait été plus négatif. Mais là, maintenant, je pense qu'à l'heure actuelle, les jeunes vont notamment se bouger.
Plus par nécessité, selon lui, le passeport sanitaire, les voyages cet été, les festivals. Et puis, il estime qu'il est préférable d'avoir deux injections de Pfizer que des écouvillons dans le nez à chaque fois qu'il prend l'avion ou qu'il participe à un concert.
Maximilien Carlier, à Douai dans le Nord pour Europe 1. Une nouvelle délibération va avoir lieu ce soir à l'Assemblée nationale au sujet du pass sanitaire, dispositif qui, à la surprise générale, a été rejeté par les députés cet après-midi. Le Modem ayant voté contre, on va trouver un accord avec la majorité, a assuré ce soir Jean Castex. Majorité présidentielle qui se déchire aussi au sujet d'une photo, une affiche de campagne de La République En Marche pour les prochaines élections départementales dans l'Hérault. On y voit une candidate suppléante portant un voile, ce que n'a pas manqué de remarquer le Rassemblement National. C'est ça la lutte contre le séparatisme, s'interroge Jordan Bardella. Un tweet relayé par Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, qui ajoute « Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale ». Depuis, le parti présidentiel se divise. Benjamin Péter, vous êtes à Montpellier pour Europe 1. Comment est-ce qu'on réagit sur place ?
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que ces candidats LREM dans ce canton populaire de la Paillade ne s'attendaient pas à provoquer une telle polémique nationale. Pour Hélène Cuisgard, la titulaire, le voile de Sarah Zemahi, sa suppléante, n'est pas illégal.
C'est dans le cadre de la loi. Nous, on est resté dans le cadre de la loi uniquement. Sarah, elle est née en 1995. Elle est investie dans la vie associative locale. Elle est ingénieure qualité. Elle a été à la fac de pharmacie à Montpellier. Moi, j'ai posé la question à mes enfants, j'ai posé la question à des jeunes. Ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu de sujet. Donc pour nous, toutes les personnes qui sont sur cette affiche représentent la République française.
Alors Stanislas Guérini, les menaces de retirer le logo et l'investiture LREM pour Mahfoud Ben Ali, le second titulaire, le délégué général d'En Marche est tombé dans le piège que lui a tendu le Rassemblement National.
Le Rassemblement National, on les connaît. On sait que c'est sur leur terrain, etc. Mais d'être lâché par des vrais marcheurs dès le départ, etc., ça me fait mal au corps. Guérini, on le connaît quand même. Je pense que là, c'est une erreur. Il a fait une bêtise pour moi. Franchement, on n'a pas envie d'enlever le logo. Nous, on va continuer notre campagne. À Fauda, je n'aurai pas, bien sûr. On ne va pas demander à Sarah de s'effacer.
Ils espèrent donc que le parti changera de position. Ils ont d'ailleurs reçu le soutien de la référente En Marche de l'Hérault et députée Coralie Dubost et entendent bien poursuivre leur campagne avec la même équipe et les mêmes affiches, quoi qu'il arrive.
Benjamin Péter, à Montpellier, pour Europe 1. En Israël, une pluie de roquettes lancées depuis la bande de Gaza s'est abattue ce soir sur Tel Aviv. Une personne au moins a été tuée. Le Hamas indique avoir mené ses frappes en réaction à la destruction par l'armée israélienne d'un bâtiment d'une dizaine d'étages à Gaza. Ce n'est que le début, prévient ce soir le ministre de la Défense. Notez que l'ambassadeur d'Israël en France sera demain matin l'invité de Sonia Mabrouk à partir de 8h15 sur Europe 1. En Chine, la croissance de la population a connu ces 10 dernières années sa plus faible croissance depuis des décennies. Le pays le plus peuplé du monde compte officiellement 1,4 milliard d'habitants, soit une hausse de 5,4% depuis le dernier recensement de 2010. Insuffisant pour empêcher l'Inde de dépasser Pékin dans les années qui viennent. On passe au foot avec cette déception. La finale de la Coupe de France, prévue le 19 mai, se déroulera à huis clos. La Fédération française de football n'a finalement pas réussi à obtenir une dérogation de couvre-feu afin d'accueillir des supporters. Le match devant débuter à 21h15 au Stade de France. On suivra demain la première demi-finale opposant Montpellier au Paris Saint-Germain. Et puis toujours en foot, un Français va très certainement porter les couleurs de l'Espagne. Le défenseur Aymeric Laporte vient en effet d'être naturalisé. Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant en Espagne. Aymeric Laporte pourrait donc porter le maillot de la Roja dès le mois prochain pour l'Euro, Henri.
Effectivement, car l'Espagne déroule le tapis rouge pour le natif d'Agen. C'est un joueur très apprécié qu'on connaît bien ici. Un talent précoce, il a évolué pendant 8 ans au plus haut niveau avec l'Athletic Bilbao, le club qu'il a recruté alors qu'il n'avait que 15 ans. Sélectionné pourtant chez les équipes de France jeunes jusqu'en 2016, capitaine des espoirs, Laporte n'a jamais été appelé par Didier Deschamps. Une désillusion pour le joueur de City. Il parlait du sélectionneur et des Bleus avec amertume il y a 2 ans sur la télé basque, mais à l'époque, il refusait les avances de l'Espagne.
Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. C'est une décision qui appartient à l'entraîneur. Il ne compte pas sur moi pour des raisons personnelles, selon moi. Mais en tout cas, Je choisis la France car je suis français et puis je n'ai pas la double nationalité.
Voilà, ça c'était il y a 2 ans, mais le français a donc changé d'avis. À bientôt 27 ans, il ne veut pas passer à côté d'un euro et peut-être d'une Coupe du Monde l'an prochain. La Fédération espagnole a déjà lancé les procédures auprès de la FIFA. Sa sélection sera certainement officialisée le 21 mai prochain. Espérons que Didier Deschamps ne s'en morde pas les doigts.
Espérons également. Merci Henri Delaguerry, correspondant d'Europe 1 en Espagne. La météo, 2 départements du Sud sont ce soir en vigilance orange pour crue. Il s'agit du Gard et des Bouches-du-Rhône. Prudence en particulier si vous habitez Beaucaire, Tarascon ou encore Arles. Demain, Anissa Haddadi, la matinée sera enfin un peu plus calme.
Oui, pendant cette nuit, Julien, en fait, les pluies de la journée, qui ont été parfois fortes, notamment dans le centre-est, eh bien, elles sont en train de s'évacuer doucement vers l'Italie et l'Europe centrale. Le début de journée est donc assez calme dans l'ensemble, assez sec sur la majorité des régions. C'est en Bretagne, en fait, que le ciel va se couvrir demain matin avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Donc, dès demain matin, du Finistère jusqu'au Pays Basque, tout le long de la façade atlantique, nous avons un ciel couvert avec des pluies fréquentes et surtout du vent qui souffle jusqu'à 70 km/h sur le littoral atlantique. Au fil des heures, la perturbation va rentrer dans le pays. Toute la moitié ouest de la France se retrouve sous les nuages et sous la pluie. Ailleurs, et en particulier au bord de la Méditerranée, en Bourgogne, en région parisienne et dans les Hauts-de-France, eh bien là, nous avons un temps beaucoup plus calme avec de belles éclaircies et dans ces régions, le temps sera sec. Les températures matinales sont fraîches, 4 à 8 degrés en général. Nous aurons jusqu'à 11 degrés au bord de la Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, comptez 12 degrés à Brest, 13 à Cherbourg, 14 pour Vannes, 15 degrés à Dunkerque et Saint-Étienne, 16 pour Clermont-Ferrand, 17 à Lille et Nancy, 18 degrés pour Paris, 19 à Ajaccio et Montpellier, 20 degrés à Marseille et la maximale est prévue pour Nice avec 21 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamaud de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les voitures neuves vont coûter plus cher. Renault va devoir augmenter ses tarifs en raison de la hausse du prix des matières premières. Pour en parler, Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil ont reçu Jean-Dominique Sénard, le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street recule de nouveau avec les valeurs technologiques sur la crainte d'un retour de l'inflation.
Oui, ça se confirme, ça baisse assez nettement. Le Dow Jones, moins 1,36%, 34 269 points. Donc le Dow Jones qui s'éloigne de ses sommets. Le Nasdaq recule plus modestement de 0,1%, mais il avait pas mal baissé hier. 13 389 points. Les craintes de retour de l'inflation sont alimentées par la flambée des prix de toutes les matières première, on va en reparler après d'ailleurs. En vue de la sortie de crise sanitaire, ça alimente donc la spéculation sur le cuivre, sur le pétrole, sur le bois de construction, un peu tout. Et ça pousse les indices d'inflation à la hausse. D'ailleurs, on attend demain l'indice américain, l'indice inflation du mois d'avril, anticipé à plus 0,2%. Évidemment, si c'est un petit peu au-dessus, ça risque de tanguer sur les marchés. Et ce soir, par anticipation, ça baisse sur des valeurs comme Tesla, encore moins 1,8%, Intel, moins 1,6%, on a IBM, moins 1,3%, Apple perd 0,7%, 125,90$ sur les devises, c'est plus calme, l'euro campe à 1,2150 face au dollar.
La bourse de Paris a elle aussi accusé le coup, en baisse de près de 2% à la clôture.
Moins 1,86%, forte baisse, c'est la plus mauvaise séance de l'année pour l'instant. 6267 points après avoir frôlé les 6400 points hier. Cette crainte du retour de l'inflation se fait aussi sentir en Europe évidemment. Et les valeurs les plus pénalisées sont celles qui étaient fortement recherchées ces derniers temps. On a Renault qui rechute de plus de 6%, 33 euros. Affecté par les mauvais résultats de Nissan. On a les valeurs industrielles en général. Alstom qui retombe de 2,5% après une provision de 632 millions d'euros passée pour le rachat des activités ferroviaires de Bombardier. Et puis du côté des puces, ça se tend toujours. STMicro, moins 3%. Les cimentiers aussi, Vicat et Lafarge reculent de 3%.
Exception du jour, les valeurs dites défensives qui ont servi de refuge.
C'est logique, toujours ce même système. Le secteur agroalimentaire en particulier en profite. un secteur refuge, comme on dit. On a bon duel, là on est dans les légumes, hein, plus 6% à 23,90€ après des résultats très résistants. LDC, le spécialiste de la volaille, remonte aussi de 3%, 98€. Savencia, le fromager, gagne 1%, 75,60€. Ailleurs, les autres places financières sont en baisse, et en forte baisse, hein, le DAX à Francfort, moins 1,8%. Bruxelles, moins 1,1%, Madrid, moins 1,7%, Milan, moins 1,6%, Londres perd 2,5% et le CAC 40 recule d'1,86%, 6267 points.
Merci beaucoup Didier Hamaud de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview écho un peu particulière ce soir puisqu'elle a été enregistrée à la mi-journée dans La France Bouge, émission spéciale en direct de l'usine Renault de Cléon en Normandie. Avec un invité exceptionnel à la parole rare, Jean-Dominique Sénard, le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il répondait aux questions d'Emmanuel Duteil et d'Elisabeth Assayag.
Bonjour Jean-Dominique Sénard.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Vous êtes le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, troisième constructeur mondial. Près de 180 000 salariés rien que chez Renault. Ici, à Cléon, 5 000 salariés sur le site. Si vous voulez bien, Jean-Dominique Sénard, on va commencer par Renault. On va bientôt sortir de ce troisième confinement. Comment se portent les ventes ?
Renault va mieux. Renault est en train de rebondir. On l'avait pressenti déjà à la fin de l'année dernière. L'arrivée de Luca De Meo, notre directeur général, avec une équipe extraordinairement charpentée, qui était là avant et qui a été complétée, est en train de faire des formidables progrès. Et cette entreprise est en train de retrouver son rang. Vous verrez, c'est une question de temps, ce n'est plus une question de fond.
Alors justement, on va regarder dans un instant comment vous allez retrouver votre rang. Il y a un petit problème conjoncturel en ce moment, ce sont les composants électriques. Ça peut paraître absurde, mais il n'y en a pas assez en ce moment dans le monde. De façon très concrète, vous aviez dit que vous allez perdre peut-être 100 000 voitures cette année à cause de cela. Quand est-ce que cette pénurie va se régler ?
Je pense qu'on a une forte chance de voir un deuxième semestre plus normal. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais tel que l'on perçoit les nouvelles capacités qui sont en train de se mettre en place dans le monde, le rattrapage devrait normalement se faire. Les indications que je vois aujourd'hui, je le vois pour Nissan au Japon, pour Mitsubishi également, convergent vers cette date du deuxième semestre. Normalement, sincèrement, on devrait pouvoir rattraper une partie du retard du premier semestre au second.
On voit qu'il y a une forte hausse des matières premières. Va-t-il falloir, Jean-Dominique Sénard, augmenter du coup les prix des voitures ?
Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'aspect inflationniste de tout ce que vous dites est réel et on le vit partout. Les fournisseurs le ressentent déjà et nous, bien entendu, en bout de chaîne, on va le ressentir. Il est évident que nos entreprises sont obligées de faire ce qu'il faut pour survivre et donc forcément passer une partie de ces hausses de prix vers le public.
Alors attendez, pour qu'on comprenne bien en bon français, faire ce qu'il faut et passer une partie des hausses de prix, ça veut dire que vous pouvez nous dire là, sur Europe 1, que le prix des Renault vont augmenter en France d'ici quelques semaines.
En tendance, il faut s'y attendre. Ça serait, vous dire le contraire serait vous dire simplement un mensonge. La réalité, c'est que la tendance inflationniste que nous connaissons là est massive. Et on l'a rarement vu depuis bien des années. Et forcément, ceci aura des conséquences inflationnistes.
On peut avoir une idée de la proportion ?
Non, je ne saurais. Alors honnêtement, je vais vous dire, et c'est très sincère, parce qu'aucune décision n'est prise aujourd'hui. Mais vous me posez la question, je vous réponds aussi sincèrement que possible.
Alors Jean-Dominique Sénard, Renault se prépare à changer complètement sa gamme. 24 nouveaux modèles sont annoncés d'ici à 2025. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, la gamme Renault est dépassée ?
La gamme Renault a un certain âge. Les modèles qui sortent aujourd'hui sont, à mon avis, exactement ce que nous souhaitions pour la gamme existante. Le modèle Captur, qui est vraiment un magnifique véhicule. Franchement, le modèle Arkana qui arrive en ce moment, un grand succès de commande. On est heureux avec ce qui arrive ici, mais ce qui arrive devant nous est beaucoup plus fort. À l'arrivée de la Mégane e-Vision, dont le moteur, d'ailleurs, sera fabriqué ici, et elle sera fabriquée à Douai, pas très loin d'ici. L'arrivée également des nouveaux modèles que l'on a prévus dans l'année 2022-23, la R5 dont Luca De Meo a parlé, tout le nouveau programme que notre directeur général a mis en place récemment, vous allez voir arriver une nouvelle gamme de Renault
dans les deux ans qui viennent, qui sera très impressionnante.
Alors justement, nouvelle gamme, vous venez de citer vous-même la R5, elle sera électrique. Il y a la 4L, nouvelle génération, qui se prépare aussi. Oui. Chez Renault, la révolution, c'est faire du neuf avec de l'ancien ?
Ah bah écoutez, on verra bien ce que ça veut dire, mais je crois que les premiers retours que nous avons du grand public sur les projets que Luca a présentés sont extraordinairement positifs. Il y a une immense attente, pour tout vous dire. Pas simplement de la curiosité, mais une vraie attente.
Dans la R5, par exemple, vous la mesurez comment, cette attente ? C'est pour quand déjà qu'elle arrive ?
Écoutez, elle arrivera en principe en 2022-2023. Je crois que c'est plutôt 2023. On est tous impatients à ce qu'elle arrive. Vous savez, dans l'automobile, on ne peut pas aller trop vite non plus. Il faut faire très attention. C'est assez complexe et il y a des éléments de qualité qu'il ne faut pas négliger. Mais le temps passe vite, elle va arriver et je lui promets un succès absolument fabuleux.
Donc la R5, la 4L, c'est une façon de renouer avec une histoire familiale.
Mais vous savez, Renault, c'est un bout de France. Il faut se rendre compte que la tradition et la passion de l'automobile dans cette entreprise est incroyablement forte. Je ne suis pas surpris, vous savez, c'est quelque chose qui m'a vivement impressionné quand j'ai rejoint le groupe. Et au fond, ce passé extraordinaire ne demande qu'à revivre. Alors, on va utiliser les mêmes noms de voitures parce que dans l'inconscient collectif, il y a un côté extrêmement positif. Inutile de vous dire que les voitures ne seront pas les mêmes. La technologie sera radicalement différente et, à mon avis, parmi les meilleures du monde.
On le disait, Renault qui est en train de se préparer avec un très grand plan produit, mais il y a un plan en trois étapes. D'abord, on commence par remettre l'entreprise un peu à niveau. On cherche toutes les marges d'économie. Et parmi ces marges d'économie, il y a la fermeture d'usines, notamment les fonderies de Bretagne. Hier, des collaborateurs ont manifesté pour ne pas qu'un conseil économique et social se tienne, puisqu'ils ne veulent pas que vous cédiez votre usine. Comment vous pouvez les rassurer sur leur avenir, Jean-Dominique Senard ?
Je crois que nous faisons un travail considérable avec les équipes aujourd'hui pour rassurer tout le monde. L'évolution des fonderies de Bretagne est connue depuis pas mal de temps. Nous savons très bien que son activité est vouée à se réduire considérablement dans l'avenir, ne serait-ce que parce que ce que vous voyez aujourd'hui dans cette usine, c'est-à-dire l'évolution des moteurs thermiques qui vont vers les moteurs électriques. C'est une, j'allais dire, presque une fatalité.
C'est-à-dire que l'électrique va détruire de l'emploi.
Mais elle va détruire, le mot est toujours un petit peu péjoratif.
Il va faire évoluer la
transformation des emplois. Mais franchement, j'insiste là-dessus parce que ici même, nous avons une usine qui fabriquait essentiellement des moteurs thermiques pendant des années et qui aujourd'hui est en train de se convertir. Aujourd'hui, nous sommes à 50% électrique, 50% thermique. Et ce qui se passe, c'est que nous anticipons cette transformation par la formation des personnes qui travaillent. C'est fondamental. Le devoir des chefs d'entreprise dans ce domaine-là, c'est d'anticiper. Évidemment qu'il y a une évolution. Comment voulez-vous l'empêcher ? D'ailleurs, c'est le progrès technologique. Le progrès technique, on ne va quand même pas aller contre le vent. Mais anticiper, c'est le devoir principal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous formons les personnes. Nous les formons à un nouveau métier. Et c'est vrai que c'est très différent. Des heures et des heures de formation réparties pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de choc. Et pour ceux qui auraient difficulté pour faire la transition, nous insistons en insistant sur les horaires de formation pendant les semaines et les mois. Croyez-moi, il n'y a pas de recette miracle. La recette principale, c'est la formation. Les grands programmes européens, les grands programmes gouvernementaux et tout doivent nous aider, nous, entreprises, à faire ces formations de transition. C'est ce que nous aurions dû faire aux fonderies de Bretagne depuis des années. Mais malheureusement, peut-être collectivement, nous avons fait cette erreur. Aujourd'hui, il faut la corriger, former les gens et les accompagner. Alors je l'ai dit, Luca De Meo le dit aussi, cette fonderie n'a pas vocation à rester dans le groupe Renault. En revanche, nous allons accompagner cette transition. C'est un engagement que nous avons pris. Et quand les engagements de Renault sont les engagements de Renault, en général, ils sont tenus.
Voilà, c'était Jean-Dominique Senard, le PDG de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, invité exceptionnel aujourd'hui de La France Bouge entre 13h et 14h. Et c'est à cet horaire que l'on retrouvera demain Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag. Ils nous parleront du boom des MBA, ces diplômes très recherchés avec le patron de l'ESSEC. 22h29 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec les échos, la Chine rattrapée par le vieillissement, titre le quotidien économique. Je vous en parlais dans le journal, la croissance de la population chinoise n'a jamais été aussi faible depuis les années 60. La part des personnes en âge de travailler est en chute libre et ce, malgré la fin de la politique de l'enfant unique, elle n'a pas provoqué le baby-boom espéré. En conséquence, Pékin envisage un report de l'âge de la retraite, un sujet explosif, écrivent les échos. Région PACA, le RN profite de 10 jours de confusion, c'est le titre à la une demain du Figaro. Le quotidien publie un sondage explosif. On y apprend que Thierry Mariani, le candidat Rassemblement National, est donné gagnant des prochaines régionales après la tentative d'accord entre le président sortant, Renaud Muselier, et La République En Marche. Un parti qui erre d'une liste à l'autre comme un canard sans tête raille Vincent Trémolet de Villers. Quant à la droite, elle voit s'éloigner une région dans laquelle elle est largement majoritaire. Formidable alchimie qui transforme l'or en plomb, écrit l'éditorialiste du Figaro.
cerveau. On termine avec l'opinion qui titre sur les états d'âme de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. On a beau être le quatrième personnage de l'État, on ne parvient pas pour autant à toujours contenir ses affects, écrit le journal libéral. Richard Ferrand est malheureux comme tout, rapporte l'un de ses amis, au point de parfois s'épancher devant ses hôtes. Il se plaint beaucoup de ne plus être écouté par le président, confie un parlementaire qui a récemment partagé sa table. Richard Ferrand n'hésiterait pas d'ailleurs à faire preuve d'une ironie mordante à l'égard d'Emmanuel Macron. On l'a ainsi entendu moquer en février ce président qui pourra briguer un jour l'agrégation d'immunologie, rapporte l'opinion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement, 39-21 et ils sont déjà là. À nous écouter, puisqu'ils nous écrivent déjà au 739-21. Donc, c'est une bonne soirée en perspective. On se retrouve dans une demi-heure pour votre flash, Julien.
À tout de suite.
À tout de suite.